pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, il y a les sécheresses en Afrique, les inondations et les tempêtes en Asie. Les dérèglements climatiques s'intensifient et mettent en péril ceux qui dépendent de l'agriculture pour leur survie. À tel point que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les progrès qui avaient été réalisés dans la lutte contre la faim dans le monde depuis le début des années 2000 sont menacés. Pour la troisième année d'affilée, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté. 821 millions d'individus sont concernés. Le Cap-Vert, ce petit archipel composé d'une dizaine d'îles semées au large du Sénégal et de la Mauritanie, porte mal son nom. L'histoire de cette ancienne colonie portugaise est parsemée de famines meurtrières causées par une sécheresse sévère. L'indépendance en 1975 n'a rien soulagé et les 500 000 Cap-Verdiens, qui sont plus de la moitié à cultiver, apprennent à gérer la rareté. La rareté de l'eau, surtout depuis une décennie. Il faut multiplier les stratégies. Nous sommes sur l'île de Santiago, l'île capitale, le berceau du pays où les Portugais ont débarqué au XVe siècle. Nous avons rendez-vous avec un expert du ministère de l'Agriculture pour décrypter le paysage et percer les mystères de ces vallées verdoyantes malgré des cours d'eau à sec. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Jacques de Pinatavarez. Je suis chercheur à l'Institut National de Recherche et de Développement Agraire, qu'on appelle INIDA, du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Mais actuellement, je suis le responsable de la direction de la foresterie et du génie rural qui se trouve au niveau de la direction générale de l'agriculture, sylviculture et élevage.
Alors là, nous sommes donc face à un paysage magnifique sur l'île de Santiago, qui est l'une des 10 îles du Cap-Vert, l'île où il y a la capitale, Praia, et là nous sommes au centre de l'île.
Actuellement, nous trouvons dans un bassin qu'on appelle Ribeira Seca. On est en zone d'altitude, à environ 400-500 mètres d'altitude. Donc ici, comme vous le voyez, le climat est beaucoup plus doux, beaucoup plus clément, avec une végétation beaucoup plus développée par rapport à la partie, terminale du bassin versant. Ribeira Seca, c'est le bassin le plus grand de l'île de Santiago, qui fait environ 75 km².
Alors là, on est juste, on voit le pic de Santo Antonio, c'est ça?
Tout à fait. C'est le sommet le plus montagneux de l'île de Santiago. Il est à 1392 mètres d'altitude.
Et donc ici, quand on regarde autour de nous, donc c'est magnifique, hein, on est entouré de en effet, ces pics rocheux qui montent assez en altitude, et puis de ces cultures en terrasse dont on va évidemment parler, parce que le climat ici au Cap-Vert est particulièrement aride. On n'est pas très loin du Sénégal, pas très loin du Sahara, à quelques centaines de kilomètres.
Tout à fait, on appelle le pays Cap-Vert, mais ce n'est pas si vert que ça. Donc voilà, le Cap-Vert, disons, c'est un prolongement du Sahel, quoi. C'est le Sahel insulaire. Donc en effet, si on s'en tient compte au type de climat que nous avons, c'est un climat tropical aride, dans la mesure où on a 2-3 mois de pluie par année. Et ce qui fait que donc, le reste de l'année, c'est sec. Donc les pluies, des fois, se font rares, comme par exemple en 2017 et 2018. Donc c'est deux années assez sèches. Donc ce qui fait que, et paradoxalement, quand il pleut, on a quand même des pluies assez fortes, très concentrées dans un laps de temps, et qui font malheureusement pas mal de dégâts au niveau de, surtout par rapport à la dégradation, à l'érosion des sols, quoi.
Mais surtout que, bon, évidemment, les auditeurs n'ont pas l'image. On va prendre des photos, on les mettra sur la page du site internet de l'émission. Mais c'est vrai qu'ici, c'est très vallonné, parce que le Cap-Vert sont des îles volcaniques et on voit qu'il reste des formations de ces îles volcaniques. Donc les pentes sont relativement raides.
Voilà, c'est l'un des caractéristiques du Cap-Vert, et particulièrement des îles montagneuses, du fait de l'origine de ces îles. Ce qui fait que bon, on a des versants qui sont pentus, qui vont jusqu'à 80, même 90% donc de pente, quoi.
Et quand il pleut combien de millimètres par an, une bonne année, une année normale?
Bon, la précipitation moyenne est autour de 250-300 millimètres d'eau. Voilà.
C'est pas beaucoup.
Oui, c'est pas beaucoup. Donc on n'est pas si gâtés quand même.
Alors entre cette géographie pentue et cette aridité, les pluies capricieuses, la lutte contre la désertification est une lutte quotidienne ici, surtout depuis 1975, surtout depuis l'indépendance où vous avez dû prendre le pays en main.
Oui, tout à fait. L'un des problèmes environnementaux le plus sérieux du Cap-Vert, c'est par rapport à la sécheresse, à la désertification, à la dégradation des terres, l'érosion des sols. Donc le reboisement au Cap-Vert a commencé au 19e siècle, mais d'une forme très timide, quoi. C'était des activités qui étaient essentiellement concentrées dans les zones d'altitude, quoi, de montagne. Donc ce qui fait qu'en 1975, après la date de l'indépendance du Cap-Vert, en 1975, donc il fallait prendre le taureau par les cornes, disons, donc résoudre le problème de la fragilité des sols, le manque d'eau, une végétation très peu poussée, donc un couvert végétal pratiquement inexistant, parce qu'on avait à l'époque moins de 5% de la superficie du territoire de l'île qui était arborisée, quoi. Donc, en 1975, après l'indépendance, donc l'État a su mobiliser la population et également les partenaires internationaux, donc qui nous ont appuyés financièrement, mais aussi techniquement. On a initié des campagnes de reboisement de l'ensemble des îles, quoi. On est passé de moins 5% du territoire à plus de 20-21%, quoi.
21% du territoire est reboisé. Alors on le voit autour de nous, il y a beaucoup d'arbres qui ont été plantés, surtout ici à Santiago, parce qu'au début c'était la priorité, parce que c'est là où encore aujourd'hui vivent plus d'un tiers des habitants.
Tout à fait, Santiago c'est l'île la plus grande parmi les 10. C'est d'ailleurs aussi l'île qui a été découverte la première habitée, et où se concentre plus de la moitié de la population. Donc, une île extrêmement anthropisée. Donc, c'était une île qu'on a quand même utilisée comme modèle, quoi. Voilà. Et pour l'arborisation, comme vous le savez, du fait de son climat tropical sec, les sommets des montagnes sont beaucoup plus humides par rapport aux zones littorales. Ce qui fait qu'on a, si vous voulez, on a ici, sur l'île de Santiago, par exemple, 4 zones bioclimatiques différentes. Il fallait trouver les bonnes espèces par rapport à la réalité de chaque zone bioclimatique. Donc il y a tout un travail de recherche derrière, d'essai, ce qui fait qu'on a une végétation extrêmement, disons, hétérogène, depuis la tête du bassin jusqu'à l'embouchure, quoi. Voilà.
Donc là, on démarre par une des 4 zones bioclimatiques. En fait, plus on descend dans la vallée, plus on change de climat. Donc en gros, ces 4 zones, c'est quoi?
Il y a la zone aride, la zone littorale. Ensuite, plus on monte, on passe de la zone aride à la zone semi-aride, subhumide jusqu'à la zone humide, quoi.
Voilà. Et la zone humide est en haut parce que c'est en haut que s'accrochent les nuages, c'est
tout
ça?
Tout à fait. C'est là où on a plus de pluie et où s'accrochent les nuages. Donc, et le Cap-Vert, tout au long de l'année, on est balayé par les vents de l'Alizée, qui renferme quand même une certaine humidité. Donc, à partir de 400-500 mètres d'altitude, c'est des vents humides qui commencent à déposer leur humidité, quoi. Ce qui fait qu'ici, on a le climat beaucoup plus doux, une végétation beaucoup plus développée. C'est dû justement à l'influence des alizés et des pluies qui sont beaucoup plus abondantes ici par rapport aux zones littorales.
Ouais. Même si y a un vent concurrent qui s'appelle l'Harmattan, qui apporte la chaleur et la sécheresse du Sahara jusqu'ici.
Oui, l'Harmattan, c'est un vent qui est terrible. Quand il passe, il fragilise tout ce qui est agriculture, quoi. Donc c'est un vent chaud et sec, donc qui brûle même les cultures.
C'est à quelle période?
Mai, juin, octobre. Donc ce sont les moments idéaux pour l'harmattan au Cap Vert.
Donc Jacques, là on va quitter ce lieu magnifique d'observation, le Mirador, et on va donc reprendre la voiture pour aller voir la première zone bioclimatique en hauteur.
Ok, tout à fait, on monte en altitude. Là on sera au plein cœur de la zone bioclimatique humide. Voilà.
Allons-y.
Nós somos os flagelados do vento leste. Nós é vítima de vento leste.
Olha que estrutura.
Para nós que tive campanha de junta, nem que tive nenhum monstro de para dar nós um abraço de mora aberta. Somos os flagelados do vento leste. Nós é vítima de vento leste.
Et Jacques, là, il y a quelque chose d'extraordinaire, ce sont les routes du Cap-Vert. On est en train de rouler sur une route pavée, parce qu'au Cap-Vert, il y a eu une logique pour empêcher que les gens partent, c'était de faire des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, comme cette route sur laquelle nous sommes en train de rouler, c'est ça?
Oui, en fait, vous savez, bon, c'est un pays où il pleut pas, et où plus de 60%, même 70% de la population vivait, à base de l'agriculture, quoi. Donc avec les sécheresses récurrentes, donc malheureusement la vulnérabilité sociale des familles s'est malheureusement amplifiée. Donc pour mitiger cette pauvreté, disons, donc l'État est obligé maintenant d'ouvrir des travaux en milieu rural. Et justement la construction des routes fait partie des approches que l'État a jugé nécessaires et importantes pour justement mitiger un tout petit peu le poids de la pauvreté au niveau des familles, quoi. Ça leur a permis quand même d'avoir un salaire, ouais, et de subvenir ainsi à leurs besoins, quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, ces grands travaux à haute intensité de main-d'œuvre, c'est quelque chose auquel l'État recourt régulièrement. Par exemple, en 2017, quand il y a une grande sécheresse, c'était un moyen d'aider les éleveurs.
Tout à fait. Donc 2017, ça a été une année terrible pour le Cap-Vert, quoi. Donc où les pluies se sont fait complètement rares. Donc du coup, cela a engendré une certaine dégradation de la qualité de vie de certaines familles. Donc il fallait trouver des solutions, voilà. Et plusieurs solutions ont été retenues, et parmi lesquelles justement la reprise des travaux d'haute intensité de main-d'œuvre, quoi, pour aider les populations à trouver un salaire et à avoir des ressources financières, et comme ça pouvoir leur permettre quand même de subvenir à leurs besoins basiques, quoi. Voilà.
N'a boca palavra, tussure de crescer, n'a peito criança. Ternura de amor e não olhar fantasia e o seu abel cheio de badalada Ave Maria na boca palavra. Sura de crecheu na peito criança, ternura de amor e na olhar fantasia de seu abelho cheio de badalada.
Une localité qui s'appelle Longuera. C'est la population qui vit, disons, dans le bassin le plus reculé du bassin. Voilà, la localité de Longuera.
Là, on est entouré de... Là, il y a un enfant qui pousse une brouette avec du bois. Il a un sac à dos, il a dû sortir de l'école il n'y a pas longtemps.
C'est bien possible. Voilà, donc ici, on a pas mal de bois accumulé. Parce que...
Du bois coupé.
Voilà, du bois coupé, et ce bois-là, ça vient du Prosopis geloflora, voilà, qui est l'espèce la plus utilisée dans le reboisement de l'île de Santiago. Et tout juste à côté, on a une industrie de transformation justement de la canne à sucre à rhum.
Ah, pour faire le fameux grog, voilà. le rhum de l'île.
Tout à fait, la fameuse boisson de l'île, quoi. Donc, qui est une industrie assez intéressante dans la mesure où ça permet de créer de l'emploi, de valoriser l'agriculture d'un côté et de permettre quand même aux agriculteurs, aux transformateurs d'améliorer leurs revenus, quoi. Voilà.
Et là, il y a un arbre derrière nous qui est absolument incroyable, qui est immense,
ouais.
Qui fait, je ne sais pas, plusieurs mètres de diamètre. Comment on pourrait décrire cet arbre qui a des troncs qui partent dans tous les sens avec des lianes qui pendent et il fait, je ne sais pas moi, peut-être voilà. 70 mètres de large.
Oui, plus ou moins. C'est une espèce qu'on appelle localement lemba-lemba. Donc, c'est un arbre quand même qui a une morphologie exceptionnelle, voilà. Donc, il y a des racines pratiquement au-dessus du sol et pas mal de branches, quoi. Donc, qui se développe d'une forme extraordinaire, voilà.
Il est impressionnant, cet arbre.
Les gens l'utilisent pour se reposer sur l'ombrage et autres, quoi, voilà.
Et donc ici, on est en zone bioclimatique la plus abondante, en haut de la colline finalement, en haut voilà. Du bassin versant.
Voilà. Là, on est au sommet du bassin, quoi. On est au sommet du bassin de Ribera Seca. Donc, comme vous le voyez, la végétation est beaucoup plus dense, un climat beaucoup plus frais, hein, où l'agriculture est beaucoup plus importante, surtout l'agriculture pluviale, parce qu'ici, le taux de succès de l'agriculture pluviale est pratiquement à 90%, quoi. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui est cultivé ici?
L'agriculture pluviale est essentiellement composée de maïs et d'haricots. Mais du fait du climat qui est assez doux, assez clément, donc on trouve quand même pas mal d'espèces, notamment des cannes à sucre, du manioc, bananes, pas mal d'arbres fruitiers, des cocotiers, okay, avocatiers, okay, des manguiers également. Donc, c'est une zone des papayers. Donc, on a toute une diversité d'espèces, quoi, voilà, dans cette zone.
Donc, les gens qui vivent ici vivent mieux qu'ailleurs?
En termes d'agriculture, ce sont des gens qui sont quand même assez favorisés, quoi, voilà. Donc, le taux de succès de l'agriculture pluviale, par exemple, est à pratiquement 90%. Donc, ce qui fait qu'il y a une garantie derrière, quoi, par rapport à cette culture, voilà.
On voit la canne à sucre qui est cultivée juste au-dessus de la romerie. On peut aller voir un peu la romerie.
Ouais, ouais.
Vous pensez qu'elle fonctionne aujourd'hui?
Oui, elle fonctionne pratiquement 24 sur 24. Hein.
Le grog n'attend pas. Hein.
Ah non. Mais quand même, depuis 2-3 ans, l'État a pris des mesures assez intéressantes pour justement discipliner la production du rhum au Cap-Vert. Ce qui fait que maintenant, on n'ouvre pas durant toute l'année. Donc, la production commence au mois de janvier, donc jusqu'au mois de mai-juin. Alors là, on arrête. Hein. On arrête, tout est fermé. Donc, ça donne le temps à la culture de la canne de se développer et d'atteindre la maturité idéale pour que la transformation soit bien faite et que le produit derrière soit de qualité, quoi.
Et tout Cap-Verdien boit un grog par jour?
Pas tout, mais... Pas tout quand même.
Bon, mais c'est fort quand même. Vous en buvez, vous?
Malheureusement pas. Tout de même, bonheur, campion.
Il y a des ouvriers là, voilà. Bonjour. Boa tarde, on dit boa tarde à cette heure-là.
Boa tarde.
Boa tarde.
Bonheur, tout ok? Très bien, direct. Dire que nous quoi, Japon? Hein? Est-ce que Bidal, moi, ça va? Ça va, campion? Mais tout bien. Nous sommes sur visite, ok? Je sais bien dit. De France, non? Então, o senhor está fazendo uma reportagem na Radio France Internacional. Que chama, c'est pas du vent. Quer dizer, é que mentira, digamos assim. Um programa muito interessante. Então, é bem visita Cabo Verde. Então, aproveita para conhecer melhor a ecologia, está a ver? Pode, portanto, ali, mora que não te vive, agricultura que não tem, aí por fora. Campeão. Ok, força lá.
Alors, comment ça marche, cette romerie?
Bon, en quelques mots, rapidement, donc, d'abord, une fois la canne coupée et bien nettoyée, hein, les presser, donc on récolte le jus, Okay. Une fois le jus récolté, c'est déposé dans des sortes de barils hein, pour qu'il y ait la fermentation derrière. Quoi.
Le jus fermenté.
Le jus fermenté, justement, est déposé dans un récipient. Okay, c'est fermé. Donc, il y a le feu qui est mis derrière. Venez voir par là.
Oui.
Voilà, ça c'est du bois d'eucalyptus. Donc cela montre l'importance du reboisement au Cap-Vert. Le bois joue un rôle extrêmement important dans l'industrie de la fabrication du rhum au Cap-Vert. Quoi. Okay? Au-delà de servir aussi de source de combustible pour les femmes.
Pour la cuisine.
Pour la cuisine, la confection des repas et autres. Quoi. Voilà.
Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas trop couper les arbres.
Non, si c'est contrôlé. Parce que dans chaque périmètre forestier, il y a des gardiens, en fait. Voilà. Donc, ce qui fait que l'accès est contrôlé. Donc, on ne coupe pas n'importe quel bois et à n'importe quel moment, non. Et vous savez, l'eucalyptus, c'est une des espèces qu'on est en train d'éliminer progressivement de nos périmètres forestiers. Parce que c'est une espèce qui est assez gourmande en eau et on a un problème d'eau. Et derrière, il y a d'autres espèces qui sont plantées, quoi. Voilà.
Parce que le choix des espèces est essentiel dans un pays où il n'y a pas d'eau.
Tout à fait. Comme vous le savez, l'eau, c'est un facteur limitant, okay, de notre écologie. Donc, ce qui fait qu'il va falloir utiliser les espèces qui sont moins gourmandes en eau et qui protègent bien nos sols, quoi. Voilà.
Ah oui, il y a le feu là-dessous.
On récupère le produit. On le récupère ici, en fait.
Ah ouais, là ça sent le rhum ici là.
Ouais.
Ah et on voit donc l'alcool qui coule ici.
Condensation. Et maintenant écoulement quoi.
On va écouter le bruit du rhum qui coule.
Ça va bien.
Hein. Faut pas que je reste trop longtemps au-dessus parce que sinon je vais être complètement saoul en fait. Je prends toutes les vapeurs là.
Ouais c'est. C'est 40 degrés, quoi. Voilà, c'est pas pour n'importe qui. Hein.
Ah oui, on est entouré de canne à sucre et ça sent le rhum. C'est quand même, c'est un peu ça le Cap-Vert aussi.
Voilà, c'est ça en fait. Ça fait partie de la culture capverdienne et de l'histoire du Cap-Vert, quoi. Voilà.
Manque que la musique.
Ouais, mais bon, la musique c'est après, quoi.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
On boit un coup de rhum avant de partir ou on enchaîne ?
Bon, ça dépend de vous. Hein.
Bon, on va peut-être goûter un petit peu, histoire de honorer les personnes qui ont accepté de nous recevoir. On va couper le micro parce qu'on va faire ça entre nous et puis on reprendra la voiture après. Mais comme il y a un chauffeur, il n'y a pas de risque, c'est pas nous qui conduisons.
Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Blat comédie et Grotti ta ben cabal, a me fazinha cor, a me levar e tutta viver. Coragem, pô, coragem, garrafa, boca de viscabil, capital é só aguardim. Flato com mediquins, grotti ta ben cabal. Viam fazer a col, pra me levar lhe toda a viver. Coragem, cor, coragem, garrafa. Boca de riscabim, capital é só aguardim. Quando sei na ilha de Madeira, punha garganta, manhã violão. Vá pra casa de Maria Leiteira. Vou me encontrar com a boy maninaja, manda bem coelho de engro. Coca toy crijara que chupa, ninaja criara tossi, biscabel criara sossegro. Meri leiteira boa pessoa, cache que a panada desse mundo. El pop, el gro, el que chupa, mas que tossi. Capai corre na ketchup, menina já corre na tussi. Biscabel corre na segro, porque droga é metade do mundo, mas droga é metade do mundo. É pra quem sabe beber, quem quer saber beber, banha droga largada.
damunt, ja groc amb tres rapaç, visca pel que colli ninatge, el groc que vol matar camardian, el groc que vol matar noix de nada.
Obrigat!
Ah, c'est bien. On dirait une crème, hein.
On dirait une cavalier.
Ah, c'est vrai, j'ai eu un bon accent, là.
Ouais,
obrigado.
Obrigado.
Bon. Je m'applique, hein.
Vous voyez là-bas, au fond?
Oui. Hein,
c'est une digue, en fait. Donc, ce sont ces ouvrages-là qui sont érigés tout au long du cours d'eau. Donc, pour justement permettre de réduire l'écoulement des crues. Donc ça va obliger l'eau à déposer son sédiment, réduire la vitesse de l'eau, donc faciliter l'infiltration de l'eau et qui va plus tard recharger les nappes phréatiques. Quoi.
Voilà. Oui, parce que là, on est dans un village où normalement, au milieu, coule une rivière
ouais.
En période de pluie.
Tout à fait. Du fait de la géomorphologie du bassin, donc il y a plusieurs cours d'eau. Hein, donc tout le long des cours d'eau, l'État, ok, conçu ces genres d'ouvrages pour justement lutter contre la dégradation des terres, favoriser l'infiltration de l'eau. Donc c'est ce qui va favoriser quand même la récupération de pas mal de terres ou bien la création de nouvelles terres quoi, pour la pratique de l'agriculture. Voilà.
Ouais. Et là donc on va descendre un petit peu plus bas?
Tout à fait, on va quitter cette strate bioclimatique qu'on qualifie d'humide pour aller à une zone subhumide. Ouais.
C'est parti. Ouais.
On y va. Bonjour.
É floreado no vento e sol, e foi criado na terra lusa, comunidade de todos os povos, é pai de língua portuguesa, CPLP tem futuro para nós tudo.
Jacques, évidemment que préserver l'eau, garder l'eau à tout prix, ça demande beaucoup d'ingéniosité humaine et pour ça, il y a plein de petites ruses à travers finalement la façon de sculpter le paysage. Alors là, par exemple, on s'est arrêté parce qu'il y a, comment vous appelez ça?
On l'appelle banquette, qui est une technique assez utilisée au Cap-Vert. Donc ce sont des tranchées qui sont ouvertes le long des courbes de niveau, tout au long du versant. Au niveau de chaque tranchée, donc il y a des plantes qui ont été mises justement pour faciliter le succès des reboisements. Il y a un double rôle. Un, c'est permettre la rétention d'eau, ok. Et deuxième, ça permet quand même de lutter contre l'érosion, quoi.
Donc en fait, ça ressemble un petit peu à des petites terrasses. C'est comme s'il y avait des paliers.
Tout à fait.
Et du coup, ça sculpte, c'est vrai, quand on regarde toutes les collines au Cap-Vert, il y a toujours des strates avec des murs ou pas de murs, ça dépend s'il faut consolider ou pas, mais quasiment tous les versants sont cultivés avec cette méthode de terrassement pour conserver l'eau.
Tout à fait, les versants sont traités avec ces pratiques.
Et donc c'est comme ça qu'on voit quand on se promène dans les différentes îles du Cap-Vert, à quel point l'homme a sculpté le paysage pour pouvoir... cultiver, développer l'agriculture.
Voilà, c'est ça. Donc, on a un climat qui est agressif. On a des sols qui sont limités. Donc, en termes de proportion, on a environ 10 à 15% de sols arables, quoi. Donc, il faut les mettre à profit.
Mais ça veut dire que vous formez les populations à toutes ces pratiques de terrassement, de gestion de l'eau, de petits canaux irrigués pour la retenir, etc.
Tout à fait, parce que bon, vous savez, c'est des travaux qui sont très lourds, faits manuellement. Donc, l'implication de la population est extrêmement importante. D'un côté, il y a une main-d'œuvre qui est payée derrière. De l'autre côté, c'est des pratiques qui vont nous aider quand même à apprivoiser la nature et en tirer le meilleur profit, quoi. Voilà.
Jacques, tout à l'heure, nous étions à 500 mètres à peu près d'altitude. Là, on est entre 200 et 300 mètres, donc on a changé de zone climatique.
Tout à fait. Maintenant, on est en zone climatique subhumide. C'est une zone où on voit que les espèces végétales sont totalement différentes de celles qu'on a trouvées en zone humide, quoi. Voilà. Pratiquement, la principale culture ici, c'est la culture du maïs associée à des haricots et au pois d'Angole. Donc ici, on a tout ce qui est vert sur les versants là, c'est du pois d'Angole. Parce que tout ce qui est culture du maïs, ça a été récolté et voilà quoi, la biomasse est retirée. Ce qui fait que le versant, on ne voit que les plantes de pois d'Angole sur le versant.
Alors le pois d'Angole, ce sont des petits arbres qui font à peu près 1,50 m de haut. Et donc le maïs est autour parce que les plantes se complètent. C'est ce qu'on appelle la logique de l'agroécologie.
Tout à fait. Parce que bon, un agriculteur qui a du pois d'Angole, qui a du maïs et qui a des haricots, du coup, il a une diversité de production, quoi. Donc, ce qui fait que, bon, les haricots sont... La majeure partie des haricots sont récoltés en premier lieu. Ensuite, il y a le maïs qui vient. Et en dernier lieu, il y a les pois d'Angole, quoi. Donc, et ces pois d'Angole, au-delà de produire des grains pour les agriculteurs, donc, c'est une espèce qui fertilise le sol et qui participe... à diversifier, augmenter le couvert végétal du sol. Donc du coup, ça protège le sol contre l'évaporation et aussi contre l'érosion, quoi. Voilà.
Ça fertilise le sol parce que c'est un petit arbuste qui capte bien l'azote qui est un engrais important pour le sol.
Tout à fait, c'est une plante qui a la capacité de fixer l'azote atmosphérique et de le restituer au sol à travers une symbiose entre une bactérie qu'on appelle le rhizobiome et les racines de la plante, quoi. Donc voilà, c'est un aspect qui est très intéressant, qui fertilise le sol, qui donne une certaine production aux paysans et quand même qui dépose ses feuilles mortes sur le sol. Donc tout cela a tendance à renforcer, si vous voulez, tout ce qui est matière organique pour le sol, quoi. Voilà.
Quand on regarde autour de nous, il y a du maïs partout, sur tous les versants. Pourtant, le maïs, ça consomme énormément d'eau.
Oui, tout à fait, parce que le maïs, c'est une culture très prisée en milieu rural au Cap-Vert. Comme vous le savez, notre plat national, c'est à base de maïs. On l'appelle le cachupa. Donc, c'est un plat confectionné à base de maïs, à base d'haricots, de légumes et de viande, quoi, ou bien du poisson, selon le goût de chacun. Donc, ce qui fait que le maïs joue un rôle extrêmement important en ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles, d'un côté, et de l'autre, une fois les épis récoltés, donc il y a la biomasse qui est utilisée pour justement servir d'aliment pour le bétail, quoi. Voilà. Donc ce qui fait que c'est une plante qui est là depuis pas mal d'années et qui a de beaux jours devant elle.
Et en zone subhumide comme ici, donc les agriculteurs comptent majoritairement sur la pluie, même s'il y a déjà un petit peu d'irrigation, comme on le voit derrière nous, là il y a un champ.
Toutefois, l'irrigation ici, c'est une activité complémentaire. Donc là où les conditions le permettent, où on parvient quand même à capter l'eau et la stocker dans des réservoirs et les utiliser derrière pour justement l'agriculture irriguée, mais à une échelle relativement limitée, quoi. Voilà, voilà.
C'est un champ de quoi, là, en tout cas? Contrebas.
Ici, on a un champ de pommes de terre. On a des systèmes d'irrigation goutte à goutte qui sont installés. C'est une technologie qui permet quand même d'économiser l'eau. Voilà. En économisant l'eau, l'agriculteur parvient quand même à faire plusieurs cultures dans l'année, quoi. Voilà.
Alors, on va reprendre la voiture et on va descendre encore une centaine de mètres pour voir la zone semi-aride, c'est ça?
Ok. Anne-Cécile, je vous suis.
C'est moi qui vous suis.
Merci.
C'est vous le guide.
Excuse-moi là.
Jacques Tavares, ou Tavares, si on parle en créole. Là, on entend derrière nous un petit bruit de moteur parce que nous nous sommes arrêtés à un endroit où il y a le premier barrage de retenue d'eau pour l'agriculture au Cap-Vert. C'est un barrage qui a été construit en 2006. grâce à des fonds chinois. Aujourd'hui, ce barrage est quasiment vide. C'est-à-dire que le niveau d'eau retenu est très très bas.
Tout à fait, Anticile. On est un milieu semi-aride, quoi. Et particulièrement un endroit historique. Pourquoi historique ? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est là où on a construit le premier barrage hydro-agricole du Cap-Vert. L'un des grands défis du Cap-Vert, c'est justement de mobiliser l'eau et de la mettre à la disposition des agriculteurs, quoi. Malheureusement, les deux dernières années, 2017 et 2018, qui ont été des années extrêmement sèches, qui fait que le niveau de l'eau a nettement baissé, ce qui fait que bon, les agriculteurs sont là pour essayer d'utiliser cette quantité d'eau qui est là, qui est quand même infime, mais bon.
Oui, ce sont les moteurs qu'on entend, voilà, c'est-à-dire qu'ils pompent le peu d'eau qu'il y a dans la retenue du barrage.
Tout à fait, donc en général, c'est interdit. Mais bon, comme c'est une année exceptionnelle, pour justement essayer de cultiver un petit peu pour minimiser les impacts de la sécheresse, quoi. Voilà.
Le Cap-Vert a toujours connu des sécheresses, même certaines qui ont été dans son histoire extrêmement meurtrières.
Tout à fait. Dans les années 40, par exemple, il y a eu des sécheresses qui étaient terribles, quoi. Qui ont quand même décimé jusqu'à 40% de la population, donc de certaines îles, ce qui fait que la sécheresse, c'est quelque chose de terrible au Cap-Vert. Mais bon, on essaie d'utiliser des bonnes pratiques, de sensibiliser les populations par rapport aux effets des changements climatiques, également l'importance de l'eau, l'importance des sols, et comment utiliser les bonnes pratiques pour justement renforcer la résilience des populations face aux aléas climatiques.
Alors justement, est-ce que vous avez des données sur l'impact des changements climatiques ici au Cap-Vert ?
Si, si, on a des données quand même. On a des données par rapport à tout ce qui est production céréalière, production fruitière, également des données par rapport à l'autre dimension climatique, c'est-à-dire lorsqu'il y a des pluies exceptionnelles qui font pas mal de ravages, comme en 2015 par exemple avec l'ouragan Fred. Donc on a des données là-dessus.
Et globalement, quelles sont les tendances ?
Vous savez, depuis une cinquantaine d'années, on a noté quand même une baisse du volume d'eau, une baisse des quantités d'eau précipitée. Voilà. Devant ce scénario, donc on est en train de voir les meilleures approches, les meilleures techniques, les meilleures technologies qu'on doit adopter pour justement essayer de minimiser les effets de cette sécheresse. Ce qui fait qu'on a introduit depuis les années 90 l'irrigation goutte à goutte. Aussi, il y a l'utilisation des cultures plus résistantes par rapport à la sécheresse.
Par exemple ?
Comme le Luciana leucocephala. Donc, c'est une plante qui est très intéressante, qui parvient à se développer convenablement en milieu semi-aride, subhumide. Donc c'est une plante, c'est une légumineuse, donc qui du coup favorise l'amélioration de la fertilité des sols, également augmente le couvert végétal, donc du coup protège le sol contre l'érosion aussi bien éolienne qu'hydrique, quoi. Et aussi c'est une plante qui fournit un bon fourrage d'excellente qualité pour le bétail. Mais également, il y a l'adoption de technologies comme l'utilisation de l'énergie solaire pour pomper les eaux à partir des fourrages. Donc, ce qui réduit jusqu'à plus de 50% le coût de l'eau. Donc, ce qui est extrêmement bénéfique pour les populations.
Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Alors même si c'est difficile évidemment de faire de la prospective pour le Cap-Vert, vous êtes quand même en zone intertropicale, en Roncet, d'après les prévisions du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, que la zone intertropicale va faire partie des plus impactées par les changements climatiques. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ?
Pas tellement. Les tendances ne sont pas fameuses. Mais quand même, il y a pas mal de technologies qui ont été découvertes dans d'autres pays. Hein? Et ici au Cap-Vert, quand même, on est parvenu au long de ces années à développer des approches, des pratiques qui nous permettent quand même de faire face aux sécheresses. Voilà. Donc, dans les temps, les sécheresses provoquaient pas mal de famines, pas mal de maladies, pas mal de morts d'hommes. Mais maintenant, c'est résolu, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très simple, hein. C'est de continuer à aménager nos bassins versants. C'est de continuer à mettre à profit le peu de précipitations que nous avons. C'est de faire tout pour augmenter le couvert végétal, de renforcer les ouvrages, les mesures, les pratiques de conservation des sols et des eaux pour justement favoriser l'infiltration de l'eau, renforcer la protection des versants, la fixation des sols avec des espèces beaucoup plus résistantes par rapport aux sécheresses et aussi introduire de nouvelles cultures, des arbres fruitiers dans les zones qui ont les conditions idéales pour le développement, sensibiliser, informer, former la population, la société civile par rapport aux aspects des changements climatiques. Donc voilà quoi, et essayer d'échanger avec les autres pays. On a eu une expérience assez intéressante avec le Brésil par le biais d'une une université qui s'appelle Embrapa. Donc on a pu voir comment construire des barrages souterrains, voilà, donc, qui permettent de capter l'eau dans le sol et de les utiliser par les biais de puits. Donc voilà, c'est des technologies intéressantes et la science est en train d'évoluer. On a un institut national de recherche et de développement agraire qu'on appelle INIDA qui fait un boulot extraordinaire par rapport à la sélection des semences, sélection des plantes, sélection des boutures et autres pour justement favoriser la pratique de nouvelles cultures moins exigeantes en eau, plus résistantes aux sécheresses et qui produisent bien. On a l'FAO, hein, qui est un partenaire.
L'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation.
Voilà, le PNUD également, la coopération française, la coopération espagnole, hein, la coopération avec les États-Unis, avec le Portugal, même la coopération avec les pays de la sous-région, le CILS. Hein,
il faut rappeler ce que c'est que le CILS.
Oui, le CILS, c'est le comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel. On bosse ensemble pour justement transcender l'effet des altérations climatiques, des changements climatiques. Avec tout ça, on croit qu'on va s'en sortir, quoi. Voilà.
Sachant que le Cap-Vert a aussi un gros défi qui est que vous importez énormément d'alimentation et vous produisez assez peu.
Oui, pour le moment, on produit assez peu. D'après les statistiques, la production parvient uniquement à subvenir à environ 10% de nos nécessités. Donc, ce qui fait qu'on est pour l'instant obligé d'importer. Mais depuis une dizaine d'années quand même, on a obtenu pas mal d'excellents résultats en tout ce qui concerne les fruits, les légumes, hein, la production dans le domaine des volailles, hein, des œufs, fromage, la production de cultures maraîchères a augmenté de plus de 200%. Voilà, c'est durant ces 10-15 dernières années. Donc, ce qui est énorme, c'est extrêmement important. Bon, donc, je suis sûr que d'ici peu de temps, avec les nouvelles approches qu'on est en train d'utiliser, on pourrait être autosuffisant en fruits, légumes, voilà quoi, pour transcender la sécheresse, transcender la dégradation des sols, et ainsi de suite, quoi. Voilà.
Et le symbole de la rareté de l'eau, c'est peut-être cette pompe à eau qu'on entend, où on mobilise quelques litres de diesel pour pomper le peu d'eau qu'il y a dans le barrage.
Confissão de amor, ilusão, minha juventude.
Là, nous sommes en train de terminer notre périple quelque part, puisque on est parti du haut de la montagne à 500 mètres et
en
là
zone,
on est
en zone humide
et là on est en zone aride, donc la mer face à nous, ouais. Juste derrière là, la rivière, bon, qui aujourd'hui est à sec mais qui normalement se déverse dans la mer, ouais. Et on est entouré de culture, c'est extrêmement vert ici, on cultive plein de légumes, plein de fruits, et ça c'est le résultat de tout le travail qui est fait en amont.
Effectivement, tous les travaux de conservation des sols et des eaux qui consistent à fixer les versants, à augmenter la couverture végétale des versants et aussi à faire une correction des lits des versants, hein, une correction qu'on appelle la correction torrentielle. Donc toutes les digues qui ont été construites le long des cours d'eau, okay, sont des ouvrages, sont des pratiques, des mesures qui justement favorisent l'infiltration de l'eau. Donc ce qui fait qu'en aval, on a des forages, on a des galeries, justement pour aller chercher l'eau qui s'est infiltrée durant les périodes pluvieuses et que cette eau-là maintenant est utilisée justement pour l'irrigation des cultures.
Parce que ça recharge les nappes phréatiques.
Tout à fait, voilà. Et ici, à Laval, qui est une zone extrêmement aride, en dépit de cette aridité, on parvient quand même à avoir de la verdure, à produire des cultures maraîchères.
Alors qu'est-ce qu'on a devant nous là par exemple ?
Ben bon, devant nous, on a plusieurs cultures. On a de la canne à sucre, on a du manioc, on a de la patate douce. Donc voilà quoi. En plus, les arbres fruitiers, on a des cocotiers, il y a des manguiers, il y a des bananiers. Donc il y a toute une diversité de cultures. Et voilà quoi, c'est ça le résultat en fait.
Donc faut que je vous dise félicitations là.
Merci, mais bon, le travail n'est pas encore fini. Hein, parce qu'il faut continuer à renforcer ces aménagements, continuer à bosser, continuer à trouver les meilleures approches, les meilleures solutions pour justement avoir plus d'eau, hein, plus de terre fertile, avoir des plantes beaucoup plus résistantes et beaucoup plus productives.
Et on entend bien que nous sommes au Cap-Vert parce qu'il y a la musique partout. Quand on traverse un village au Cap-Vert, il y a la musique.
Voilà, c'est ça qui nous remonte le moral, la bonne musique, les bons plats, le poisson, que choupa, la bonne boisson derrière, la plage, le soleil, la mer, c'est ça qu'on fait le Cap-Vert.
Minha vida quase triste. Perdoa-me, Jesus. Pão de amor e castigo, Senhor Deus te dá, panca morrer triste, panca ficar sem que ele jazir.
Et l'apprentissage de l'agriculture avec un minimum d'eau se fait dès le plus jeune âge au Cap-Vert. Un tiers des écoles sont équipées d'un potager dans lequel les enfants apprennent à gérer les techniques du goutte à goutte. Merci à Jacques Tavares pour sa disponibilité. Nous espérons que ce reportage vous aura inspiré. Vous pouvez le retrouver en photo et en vidéo sur la page internet de l'émission et sur les réseaux sociaux. Hashtag CPDV tout simplement. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Vous pouvez nous réécouter en podcast grâce à l'application Pure Radio. Prenez soin de vous et des vôtres, et on se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.